Eh bien, bonjour à tous, bienvenue au casino, bienvenue pour les nouveaux arrivants, il y en a qui étaient déjà là tout à l'heure, pour cette journée donc consacrée au logement sur les lieux. Alors, si vous êtes propriétaire, locataire, résident principal, secondaire, si vous êtes en recherche de logement ou si vous êtes juste intéressé par tous ces enjeux, eh bien justement, c'est l'occasion d'aborder dans cette journée diverses problématiques qui sont liés au logement, et puis explorer des solutions, présenter des organismes qui sont là pour vous aider. On vous les présentera tout à l'heure. Et puis, présenter les projets de la mairie également concernant donc l'immobilier. Donc, on a parlé tout à l'heure, juste avant, de la transmission du patrimoine familial, voilà, pour ceux qui étaient là avant. Maintenant, on va s'intéresser à la résidence permanente sur les lieux et sur la location donc à l'année. Et puis, la troisième table ronde, juste après, on parlera des actions, du bilan et puis des projets de la mairie de Lille-Dieu. Alors, avec nous aujourd'hui, donc on a Emmanuel Maillard, donc délégué à la vie économique de la mairie de Lille-Dieu. Juste pour dire un petit mot donc pour le début de cette table ronde.
Oui, merci, bonsoir à tous. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure, je vais un peu me répéter, mais donc il y a deux ans, trois ans, on avait fait une semaine du logement qui était plus sur le diagnostic, on s'est mis au travail. Et là, sur la journée du logement qu'on a voulu faire aujourd'hui, il y aura ce soir une réunion publique où on va redonner tout ce qu'on est en train de faire et ce qu'on essaye de faire. Et puis, on avait identifié deux thèmes qu'on voulait mettre un peu en avant, qui sont la réunion qui a eu lieu à 16h30, enfin bref, qui était sur la transmission du patrimoine pour aider les gens à ne pas perdre leurs biens quand il y a héritage, pour pas que les enfants se retrouvent obligatoirement à vendre, donc essayer de trouver des solutions pour que les maisons restent dans les familles. Et l'autre sujet, c'était le parc locatif et donc la location à l'année, puisqu'on a un souci sur le foncier, sur l'accession à la propriété, mais on a aussi une perte du parc locatif, donc on a un souci, c'est qu'on a plus de demandes que d'offres sur le parc locatif, d'où la réunion de maintenant. Voilà, merci.
Alors, pour nous aider aujourd'hui, on a donc également Julie, donc de l'ADIL, c'est l'association d'information, l'agence d'information sur le logement et de l'énergie de la Vendée. Bonjour Julie. Bonsoir. Bonjour également Bruno, donc de l'association Solia et l'association Élise en compagnie de Mathias. Donc ils s'échangeront donc plusieurs sujets dont on va parler ce soir. On va parler donc des obligations et des droits de chacun, des locataires et des propriétaires. On parlera des différents baux qui existent, de leur durée, la résiliation, enfin voilà, il y a plein de questions aussi. Sur le loyer, on parlera des garanties d'impayé en cas d'impayé justement, ou en cas de dégradation du logement avec la garantie visale notamment. On parlera de fiscalité, de l'aide communale à la remise en location annuelle. On parlera de également la rénovation du logement locatif et puis quelques exemples ensuite donc avec des chiffres et tout, comme ça vous comprendrez tout bien. On va commencer tout d'abord par vous présenter l'ADIL avec Julie.
Voilà, donc l'ADIL, Agence départementale d'information sur le logement, a trois pôles. Un pôle énergie, un petit peu comme Élise et Solia. Un pôle observatoire qui rend des études sur le parc locatif privé et le pôle juridique dont je fais partie. Les missions juridiques de l'ADIL sont définies par le Code de la construction et de l'habitation qui est de délivrer un conseil juridique gratuit, neutre, mais personnalisé sur toutes les thématiques relatives au logement, notamment l'accession, la location, la fiscalité, la construction, etc. Ce soir, donc nous intervenons tous autour donc de la thématique louer son logement à l'année. Donc je vais vous apporter une vision juridique donc de la location à l'année ou en résidence principale et vous parler essentiellement d'une loi, la fameuse loi de 1989. Elle est aussi appelée loi tendant à l'équilibre des rapports entre les bailleurs et les locataires. D'accord ? Mais on va essayer de la présenter aussi sous forme de boîte à outils. Donc, on est obligé de faire un point sur la réglementation, mais on va essayer de vous donner des outils avec les combos gagnants, parfois bail, garantie qui va bien, la fiscalité. Et avec des exemples chiffrés pour que vous puissiez un petit peu vous projeter. Donc, C'est une vision un petit peu schématique, donc synthétique. Tout ce que je vais vous dire est vrai, mais peut-être que quand je vais dérouler dans la fiscalité, il va falloir adapter à votre situation personnelle. Et ça, l'ADIL peut vous proposer des rendez-vous particuliers pour étudier votre cas particulier. D'accord ? Donc, en tant que juriste, commençons tout de suite par les droits et obligations de chacun.
Alors, je vais juste rajouter que si vous avez des questions donc sur les sujets dont on va parler, je vais vous demander de lever la main, que je puisse venir avec le micro pour qu'on vous entende bien, puisque la table ronde est enregistrée. Et donc, bah, voilà, si on n'entend pas votre question, ça sera problématique.
Et peut-être que l'idée, c'est de finir donc la thématique constituée d'une ou deux slides. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, les obligations de chacun, du locataire comme du bailleur, elles sont prévues par la loi. Cette loi, elle est d'ordre public. Donc, de suite, la première obligation du locataire, c'est de payer le loyer et les charges. D'accord ? D'utiliser le logement paisiblement. De souscrire une assurance, il a l'absolue interdiction de sous-louer sans l'autorisation du propriétaire. Néanmoins, la loi autorise un hébergement. Un locataire célibataire peut très bien héberger donc sa petite amie, mais ça signifie une vie commune, c'est-à-dire que le locataire reste sur place. Un locataire ne peut pas quitter tout l'été son logement et mettre quelqu'un d'autre à sa place. Vous voyez, donc la sous-location est interdite. L'hébergement est autorisé, mais pas la sous-location sans accord. Le locataire, il est aussi tenu d'entretenir le logement en bon état. Donc, tout ce qui est l'entretien courant et les menues réparations, ce sont les termes de la loi. On a aussi un décret qui vient détailler un petit peu dans le détail les obligations du locataire. Par exemple, dès qu'il y a un espace vert, tout ce qui est tonte, mais aussi élagage, c'est à la charge du locataire. Tout ce qui est entretien, donc nettoyage des gouttières, dégorgement des canalisations d'eau pour le locataire, la chaudière, le ramonage. Donc, il a quand même l'obligation de bien entretenir le bien. Et si c'est sa résidence principale, c'est-à-dire que le propriétaire ne peut plus rentrer comme il veut dans ce logement, le locataire a tout de même l'obligation de permettre l'accès au logement en cas de travaux, en cas de nécessité. D'accord ? On bascule sur les obligations du bailleur. Donc, la première obligation du bailleur, c'est au moment de la signature du contrat, c'est au moment de la délivrance. La loi précise qu'il faut qu'il s'agisse d'un logement décent, y compris au niveau de la décence énergétique. On en parlera plus tard avec les autres associations en présence. Le logement décent, c'est celui qui ne porte pas atteinte à la santé du locataire, santé physique ou même morale. Au moment de la délivrance, le bailleur doit établir un contrat de bail par écrit avec toutes les annexes obligatoires. C'est ce qu'on appelle les diagnostics de location. Le DPE, si l'installation électrique a plus de 15 ans, il faut une attestation de conformité de l'installation électrique de moins de 6 ans. Il y a aussi des notices d'information pardonnez-moi si je résume, mais des papiers un peu plus administratifs que l'on trouve facilement sur Internet et notamment sur notre site. Ce logement doit être en bon état d'usage et de réparation. Tout doit fonctionner. Le logement, le chauffage, l'eau chaude, les ouvertures doivent s'ouvrir, mais aussi se fermer. D'accord ? C'est le bon état d'usage et de réparation. En cours de bail, le propriétaire est tout de même tenu d'effectuer ce qu'on appelle les grosses réparations. Ce sont les interventions qui portent sur toute l'enveloppe du bâtiment. Donc concrètement, c'est la toiture, c'est le ravalement. Ce sont des travaux qui sont à effectuer tous les 10 ans, tous les 20 ans. mais ça reste toujours à la charge du propriétaire. Donc, une fois que le logement est donné en location, ça devient la résidence principale du locataire. Donc, le propriétaire ne peut plus rentrer dans les lieux loués, sauf invitation, sauf arrangement, accord. La loi nous précise aussi que la discrimination, et il y a des clauses qui sont réputées abusives, c'est-à-dire que même si elles sont écrites dans le contrat de bail, elles sont interdites par la loi, et c'est comme si elles n'étaient jamais écrites. C'est notamment l'interdiction d'avoir un animal ou bien de fumer. Ça, c'est la vie privée du locataire et le propriétaire ne peut pas s'y opposer, même s'il l'écrit. Et si le locataire ne peut pas s'opposer à l'exécution des travaux dans le logement, le propriétaire doit préalablement tenir informé le locataire de l'exécution de travaux en précisant leur nature, leur calendrier d'intervention. Et s'il s'agit de grosses interventions, d'impact sur la jouissance normale du logement. Voilà ce que nous dit la loi. Est-ce que vous avez des questions ?
Alors, une question.
Donc, c'était pour l'électricité. Donc, s'il faut le faire tout, enfin, plus de 15 ans, un truc de 6 ans, ça veut dire qu'il faut faire venir le consuel pour la vérification électrique ?
Alors, le consuel, c'est au moment de la mise en service de l'installation. Et cette obligation, elle ne porte que lorsque vous signez un nouveau contrat de bail. D'accord ? Un locataire qui reste donc plus de 6 ans dans le logement, vous n'allez pas lui fournir tous les 6 ans une attestation de conformité. Par contre, si vous mettez en location un logement assez ancien, dont les derniers travaux d'électricité remontent à plus de 15 ans, vous êtes dans l'obligation, au moment de la conclusion, d'annexer au bail cette fameuse attestation de conformité de l'installation électrique, qui est faite par un électricien, pas par le consuel.
Aux normes de, si on remet un logement en 2023, aux normes de 2023, forcément.
L'attestation de conformité se fera à la date d'établissement du document. Il n'y a pas de grosses modifications, mais c'est pour l'électricité. L'électricité peut constituer un danger pour l'occupant. Donc,
voilà. On a une autre question.
Bonjour, merci. Dans les grandes villes, on parle de DPE. Aujourd'hui, sur l'île, on parlera aussi de DPE.
C'est la loi.
C'est la loi.
Après, ce qu'on peut dire sur l'actualité, c'est que lundi, à l'Assemblée nationale, il y a eu une proposition de loi qui a été votée, notamment pour rééquilibrer la fiscalité entre les meublés de tourisme et les meublés ou les non-meublés à l'année, enfin en location longue durée. C'est-à-dire pour l'instant, quand vous louez en meublé de tourisme, location touristique, vous avez des énormes avantages par rapport à quand vous louez à l'année. Donc là, les députés, ils ont voté une loi où ils équilibraient la fiscalité. Alors, ça doit passer au Sénat, etc. Mais en gros, ils ont voté une loi qui rééquilibre la fiscalité entre les meublés de tourisme et les locations longue durée. Et sur le DPE, c'est la même chose pour l'instant. Quand vous louez à l'année, vous aviez l'obligation de faire un DPE. Et quand vous faisiez une location touristique, vous n'étiez pas obligé. Donc, vous avez un vieil appart, une vieille maison, vous le mettez en location touristique plutôt que faire des travaux pour vous mettre en conformité. Ça vient d'être voté, donc c'est pas encore appliqué parce que ça doit passer au Sénat, etc. Mais en gros, dans les mois à venir, en fait, qu'on soit en location longue durée ou en location touristique, on aura l'obligation du DPE partout. Après, Gabriel Attal, il a dit mardi qu'il allait s'occuper du DPE, mais on ne sait pas ce que ça veut dire.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur donc ces obligations ? Une autre question.
Par rapport au DPE, qui fait ce contrôle ? Où est-ce qu'il faut s'adresser ?
Alors, c'est un diagnostiqueur qui est certifié tel quel. Il doit donc avoir un numéro d'agrément et vous pouvez trouver leurs coordonnées sur les pages blanches, sur Internet. Voilà. Alors, moi, je vais faire ma réponse de la DIL. Dans la mesure où on est tenu à une obligation de neutralité, on ne vous orientera, nous, la DIL, on ne vous orientera jamais vers un professionnel. On n'a pas de partenariat. En revanche, légalement, ils sont certifiés. Donc, ça doit apparaître clairement, en fait, dans les documents qu'ils vous transmettent, le numéro d'agrément.
Tu sais, Manu, si quelqu'un s'installe comme ça ou s'il y a des électriciens qui font...
Non, il n'y a pas.
Pour le moment. Parce que si, en plus, les meublés doivent le faire, il faudra bien oui. que quelqu'un s'installe ici, quoi, en fait.
Non, ou qu'ils viennent faire des permanences, quoi. Enfin, qu'ils viennent... Ouais, non, mais je suis d'accord.
Hein. Alors, on a une autre question.
Oui, c'est par rapport au DPE. Ce que vous ne dites pas, c'est que... Il y a un quiproquo dans le sens où les députés ont voté, mais pour si on fait classer notre DPE, si on est les deux dernières étiquettes, on ne pourra pas louer à l'année. Et du coup, comme le parc est vieillissant en France, il y a une question qui s'est posée où certains propriétaires vont faire de revendre. Du coup, ça passera peut-être en meublé touristique. Alors, je ne parle pas de l'Île-Dieu, hein, je parle en général. Du coup, il me semblait qu'il y avait certains députés qui en fait, ce n'était pas encore clair cette histoire en fait, de DPE. Parce qu'il y avait, entre guillemets, une norme qui rajoute une autre norme. Et du coup, les gens, ils vont vendre, tout simplement. Ils ne vont pas faire des travaux s'ils ne peuvent pas louer le logement à l'année ou même en Airbnb, quoi, en fait.
Alors, très concrètement, là, on parlait de l'obligation d'avoir un DPE. La question que vous posez, c'est sur les conséquences du résultat du DPE qui est vu par la suite, notamment les conséquences vis-à-vis du loyer et à enchaîner, et qui sera enchaîné avec donc, les collègues donc, de la rénovation énergétique qui, pour vous présenter toutes les aides pour justement mettre en location des biens décents énergétiquement.
Oui, mais les aides ne paieront pas les travaux à l'intégralité.
Voilà. Enfin, la suite dans quelques slides.
On va en parler tout à l'heure. Donc là, on a parlé des obligations donc, des locataires et des bailleurs. On a une dernière question sur ce sujet. Il y a plein de sujets à voir. Donc.
Non, sur la fiscalité, en fait. Hein. La fiscalité, actuellement, pour le logement à l'année, elle est de 30%, mais sur le micro-foncier seulement.
Oui, mais en meublé, elle peut être de 50%. Voilà. Okay. On en discute dans quelques slides.
Aussi, la fiscalité aussi.
Il y a plein de choses à voir. Alors après, de ces obligations, on va parler... du bail, il y a différents bails, baux qui existent.
Exactement, je vais rester sur la partie un petit peu juridique avec vraiment ce contrat de bail. Comme la loi pose des cases, il faut que vous choisissiez une case et il y aura des conséquences fiscales. Mais je vais commencer par vous présenter ce que j'appelle les cases. Donc, quel bail? Est-ce que c'est un bail? Alors, c'est une résidence principale, hein. Donc ce n'est pas saisonnier. Pour les résidences principales, vous avez le choix entre une location meublée ou vide. Et je vais faire un petit zoom sur le bail mobilité avec la garantie visale. D'accord ? Alors, pardon si je vous encombre de ce que vous savez déjà, mais déjà entendu, quand on parle de bail pour un an ou pour trois ans, c'est tous les ans ou tous les trois ans, il ne faut pas refaire un bail. Vous ne pouvez pas reprendre le logement telle quelle. C'est la résidence principale du locataire. Du coup, le locataire, lui, il met fin au bail quand il veut, sous réserve de respecter son préavis. Le bailleur ne peut mettre fin au bail qu'à l'expiration d'une période de 1 an pour les meublés ou de 3 ans pour les logements vides et pour les motifs prévus par la loi, qui sont la reprise du logement pour une personne pour le bailleur lui-même, ou un ascendant, ou un descendant, en allant un peu plus loin au niveau de la belle-famille. Vous pouvez reprendre aussi le logement pour le revendre, ou, nous dit la loi, pour un motif légitime et sérieux à justifier. Traditionnellement, c'est le non-respect des obligations par le locataire. Un locataire surpris en train de sous-louer son appartement... en train d'utiliser une cour à usage esthétique en atelier mécanique. Voilà, ce sont des non-respects des obligations du locataire qui pourraient justifier cette reprise du bail du fait de son attitude. Voilà. Et pour entrer dans la case, il y a le modèle de bail avec les différentes durées que je vous ai données qui impacte, c'est au niveau de la délivrance. Dans un logement vide, ça doit être une maison vide. Traditionnellement, c'est juste un évier parce qu'il faut une arrivée d'eau. Des équipements de chauffage et c'est tout. Alors que pour le logement meublé, il faut une liste de mobilier minimal prévue par les décrets toutes les pièces doivent être garnies de mobilier nécessaire. La chambre doit avoir une laiterie et une couette. La cuisine doit avoir four au micro-ondes, un frigo, une table, une ménagère. Enfin, voilà, le locataire devrait arriver et n'avoir à poser que ses valises pour pouvoir utiliser normalement le bail. Cette obligation de délivrance meublée, elle s'applique aussi pour les baux dits bail mobilité. D'accord ? Est-ce que tout le monde a... Est-ce que c'est clair pour tout le monde la différence entre bail meublé et bail vide ? Parce que dans le tableau récapitulatif, il y a toutes les différences en matière de durée, donc la durée du bail, c'est-à-dire la possibilité de reprendre le bail tous les 3 ans, tous les ans. Le bail mobilité, c'est un bail spécifique dans la mesure où il est établi pour une durée de 1 mois à 10 mois. Il n'est absolument pas possible de le renouveler. En revanche, à la conclusion du bail, il faut que le propriétaire ait un justificatif qui est une carte d'étudiant ou bien une personne. Donc, très concrètement, ça peut être par exemple un étudiant à l'école de pêche ou bien un saisonnier. Donc là, c'est sûr et certain, il n'y a pas possibilité de reconduire. La durée, elle est fixée dès la conclusion du bail. Le préavis du locataire, il est de 1 mois. Il n'y a pas de dépôt de garantie et les charges locatives, c'est au forfait.
Voilà. Je peux dire une chose, ce qu'on voit à l'Île-Dieu les 10 mois et on part l'été et on reprend des jeunes, ce n'est pas du bail mobilité. Hein. C'est du bail illégal. Oui. Oui, si c'est un étudiant, un apprenti, un stagiaire, un service civique. On est bien d'accord. Oui, non, mais sinon, ce qu'on voit ici, ce n'est pas du bail mobilité, quoi. Attention. C'est... Bah,
très concrètement, ça pourrait être, pour reprendre, donc ça peut être un étudiant donc, à l'école de pêche qui fait un bail de mobilité de la rentrée scolaire à la fin de l'année. Donc ça doit correspondre octobre-juin, à peu près. Donc il faut sa carte étudiant. Il a le droit aux allocations logement hein, et il a le droit aussi à une garantie visale. On en parlera un petit peu par la suite, mais c'est une garantie accordé par l'État, qui prend en charge tout ce qui est impayé et dégradation locative, qui est absolument gratuite. Et pour les moins de 30 ans, elle est automatique. Elle se souscrit sur Internet. Et c'est vraiment très rassurant pour le propriétaire qui veut louer à des étudiants. Voilà, c'est... voilà. Le tableau vous paraît clair ? Est-ce que vous avez des questions ?
Alors, on a une question.
Sur ce qu'a dit M. l'adjoint, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'à l'Île-Dieu, il a raison, c'est qu'en fait, il y a des propriétaires qui vont louer à un couple de jeunes, et ils vont leur dire, en juillet-août, nous, on loue en meublé saisonnier, et après, ils les reprennent au mois de septembre. Dans ce cas-là, quel est le cadre juridique ?
Il n'y en a pas, c'est hors loi.
Alors, le bail précaire, par exemple ?
Non.
Non, mais voilà. Enfin, voilà, c'est pour revenir, parce que je n'avais pas compris, en fait, l'intervention.
Alors, je vais faire ma juriste, hein, c'est une pure analyse. La loi de 1989, elle est d'ordre public, elle s'applique. À partir du moment où vous ne rentrez pas dans le cadre, vous êtes hors la loi. La conséquence, c'est quoi ? Le propriétaire a repris illégalement le bien. C'est clair, c'est soit le locataire part volontairement et il donne un préavis, donc c'est une reprise illégale. Or, il y a un délit pénal, que je ne sais plus, c'est... Alors, pour que ça... Alors, soit c'est une effraction... pour que ça soit pénal, ça peut être une effraction de son domicile. Il y a aussi un délit pénal qui est le fait d'user de menaces ou de moyens de coercion pour reprendre un bien, même si le locataire est sans droit ni titre, c'est un délit pénal et c'est puni d'une amende. Je peux vous retrouver l'article. Alors après, on tombe dans le pénal, il faut démontrer des faits détachables. J'ai utilisé le terme de menace, contrainte, effraction. On est quand même dans certains actes. Mais la question, c'est est-ce que le locataire donne librement un préavis ?
Non, de toute façon, c'est illégal.
C'est illégal, c'est illégal, hein ?
Oui, par la force, des choses. Par la force des choses, oui.
Et si les deux parties sont d'accord ?
Alors, la loi est très claire. Hein. L'arrangement amiable suppose tout, mais il faut qu'on soit amiable sur le moment présent et puis par la suite. Et après, il peut y avoir un tiers. Je rappelle que... je fais vraiment ma juriste. Hein. Je vous donne tous les textes de loi. Après... les juristes, on sait ce que dit la loi, on sait comment elle est appliquée et on sait combien c'est dur de la faire appliquer. Néanmoins, il y a quand même la question, c'est est-ce que le locataire est libre en fait de partir ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il est en situation de vulnérabilité. Il y a quand même une obligation de dénoncer tout ce qui est situation de vulnérabilité. Enfin, vous voyez, si juridiquement... On est là entre l'absence de consentement et l'utilisation de moyens coercifs plus un état de vulnérabilité, on pourrait basculer dans le pénal.
Le locataire en fait serait en droit de rester dans son habitation vu que le bail est illégal en fait.
Ah ben, en tant que juriste, très concrètement, le bail ne correspond pas au cas type, c'est donc la loi qui s'applique. Qui nous dit qu'il faut voir la commune intention des parties. Et si le locataire n'avait pas vraiment envie, a été contraint d'accepter, eh ben on tombe dans la location classique. Donc pour reprendre son bien, le propriétaire doit soit vendre le logement, soit le reprendre.
Est-ce qu'on a d'autres questions sur ce sujet ? Bon, apparemment pas. Alors on va passer à l'autre sujet qui est donc le... loyer.
Alors, zoom sur le loyer. Au niveau de la fixation, le loyer est libre. On l'a vu, et les associations Élise et Solia sont là pour parler tout ce qui est aide, prise en charge de travaux de rénovation énergétique. Donc, l'État ouvre les manes pour ses subventions et inversement, commence à resserrer un petit peu l'étau sur ces fameuses passoires énergétiques. Donc aujourd'hui, nous dit la loi, si la fixation du loyer est libre, aujourd'hui, une passoire énergétique, on ne peut plus augmenter le loyer par rapport au précédent locataire. On ne peut plus, si c'est un F ou G, on ne peut plus réviser le loyer. Et à terme, il y aura une absence de mise en location. Je rejoins les interventions. Il y a déjà eu un calendrier qui a été retardé et il est tout à fait probable que cette absence de mise en location soit de nouveau reportée. Néanmoins, on est quand même dans cette tendance légale qui est inéluctable. Un jour. Donc, sinon, au niveau de la révision du loyer, elle est automatique. Et si elle est prévue dans le bail, dans le contrat clause type, il y a toujours une clause. Il faut juste indiquer le moment de la révision et l'indice. Donc premier trimestre, deuxième, troisième, etc. On ne peut pas augmenter plus que la demande. Si on oublie de le demander au moment où on ne peut pas revenir en arrière. Il n'y a pas d'effet rétroactif. Et si on a oublié pendant plus d'un an, c'est fini. C'est présumé abandonné. D'accord ? La révision, elle a toujours lieu sur le dernier montant des loyers hors charge. Sur le site de l'ANIL, parce que nous, on est agence départementale, mais on a un site qui est Agence nationale d'information sur le logement. En matière d'outils, il y a à la fois ce que j'appelle une calculatrice donc de révision du loyer, parce que vous rentrez juste l'indice de référence, le montant du loyer, et ça vous donne le nouvel indice. Il y a un lien sur la liste publiée par l'INSEE, ainsi qu'une lettre type pour demander la révision. Très concrètement, sur la lettre type, c'est une lettre recommandée, parce que la loi impose que la demande soit faite sous forme de notification, c'est-à-dire que le propriétaire puisse démontrer qu'il l'a demandé à telle date. Mais si ça se passe bien avec votre locataire, un mail, ça suffit. D'accord ? Si, je voulais vous parler aussi d'autre chose. Comme la loi favorise vraiment les travaux de rénovation énergétique parce qu'il y a ce qu'on appelle la contribution aux économies d'énergie, qui est une des rares possibilités où on a d'augmenter, on va dire, les revenus locatifs. La loi de 1989, elle nous dit qu'en cas de travaux... quand vous faites des travaux énergétiques, vous partez toujours d'un DPE qui vous donne une consommation donc électrique de temps que vous pouvez convertir en montant. Le DPE et les collègues font plusieurs scénarios pour vous permettre de gagner une lettre. Concrètement, ça va se traduire par une autre consommation qui est aussi convertible en monnaie sonnante et trébuchante. Quand vous faites la différence, ça vous fait une économie annuelle. 2 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, vous pourrez le voir peut-être avec les exemples chiffrés. Donc cette économie annuelle, la loi permet d'en répercuter jusqu'à 50% sur le locataire. Très concrètement, pour une économie de 1 200 euros, vous seriez en droit de répercuter 600 euros annuellement sur le locataire pour une durée maximale de 15 ans. Concrètement, au niveau du loyer, il y aurait le loyer, les charges et cette ligne, contribution à l'économie d'énergie. En revanche, nous dit la loi, il faut absolument que ça soit annoncé, convenu avant la réalisation des travaux. Et c'est limité dans le temps jusqu'à 15 ans. D'accord ?
Alors, est-ce qu'on a des questions sur la partie loyer ? Donc, on va passer à la suite. C'est la garantie VISAL que...
Oui, voilà. Donc, ça, c'était le calendrier qui est aujourd'hui fixé. Donc, en fait, c'est compliqué parce que la première date, on peut toujours la mettre en location. Par contre, à partir du 1er février, F ou G, on ne pourra plus les mettre en location. En l'état de la loi actuelle. Voilà.
Ouais. La nouvelle loi est passée, adoptée et mise en application, auquel cas on aura sûrement la même chose sur la location touristique. Sachant que le 1er janvier 2003 est devenu le 1er janvier 2025 déjà. Et après, on ne sait pas très bien si le 1er janvier 2025 est devenu plus tard, mais, ou si c'est les deux. Mais en gros, le G, c'est vraiment des gens quand on arrive à louer quelque chose qui est en G, c'est que vraiment, on n'a pas beaucoup de respect pour les gens, les locataires, quoi, globalement. Et donc ça va passer à l'année prochaine. Et puis ça risque de bouger parce qu'un des risques de tout ça, c'est que il y a beaucoup l'industrie, c'est-à-dire tout ce qui est promotion, constructeur de maisons et d'immeubles, etc., qui ont beaucoup de mal actuellement, et qui disent que notamment un des risques, c'est de dire les gens ne vont pas pouvoir faire les travaux parce qu'ils n'ont pas d'artisans, ou ils n'ont pas les moyens, ou etc., ou c'est tellement long à faire les dossiers, que le résultat, ils vont vendre. Ou avant, c'était résultat, ils vont mettre ça en Airbnb, quoi. Maintenant, si on se dit que ça va être le même problème pour eux, en gros, ils vont vendre. Et un des risques, et c'est vrai, c'est de se dire qu'en fait, des gens qui ont un appartement ou une maison et qui n'y arrivent pas, vont le vendre. Qui va l'acheter? Un investisseur qui a déjà 15 baraques et lui, il s'en fout, il a des moyens pour faire les travaux et il continuera à mettre en location. Donc, c'est un des risques, ça pourrait être d'encore grossir le multipropriétaire et voilà. Donc, ça risque de bouger à cause de ça. Mais si ça bouge, de toute façon, ça ne disparaîtra pas. Ça va juste, ils vont juste l'étaler. Mais on y va, quoi. Et en même temps, on peut comprendre que c'est compliqué à mettre en place pour quelqu'un qui a un bien tout ça. Mais en même temps, le F et le G, à un moment donné, c'est normal que le propriétaire fasse des travaux pour louer quelque chose qui soit correct, quoi. Ça ne paraît pas scandaleux, quand même. Oui. De toute façon, toutes les lois, quand il les... Déjà, il ne faut pas que ça parte au Sénat. Alors, si on parle un peu politique, la loi, pour l'instant, elle a été votée, mais pas votée par les Républicains et le RN, qui sont plutôt majoritaires au Sénat. Donc, ça risque de discuter. Hein, ça va passer en commission paritaire. Et à la fin, c'est l'Assemblée qui va décider. Donc, ils vont déjà prendre un temps pour ça. Et après, il y a la mise en application, c'est-à-dire que c'est tout le temps, ils donnent 2 ans ou 3 ans, ils vont faire comme là. Hein. Ils vont refaire un truc en disant que les gens auront normalement le temps de se retourner. Quoi.
Alors, je vais venir pour les questions, parce qu'avec le micro, sinon on ne va pas vous entendre.
Effectivement, juillet, août, les gens ne pourront pas mettre ces normes en pratique pour louer 3 mois dans l'année. Parce qu'il y en a.
Honnêtement, le F et le G...
Et là, du coup, ils seront obligés de vendre leurs biens.
Le F et le G, c'est des trucs... C'est pourri.
Le F et le G, c'est des maisons non isolées, mais vraiment non, d'été.
Ouais, c'est pas que...
Et il y en a pas mal.
C'est pas que de la maison non isolée. Hein, c'est pas en état, quoi.
Non, le F, il y en a beaucoup, et c'est en état. Hein, ça dépend. Franchement, il y a beaucoup de maisons qui sont F sur l'île-Dieu, où il y a des gens qui y habitent. Ouais. G, c'est un peu plus délicat, mais... F, on y est très vite. Hein. En plus, aujourd'hui, ils regardent quand même beaucoup la consommation. On a d'énormes volumes dans les maisons. Et du coup, les consommations peuvent être importantes avec des maisons isolées. Donc, franchement, sur le F, dire que c'est insalubre, il y a beaucoup de gens qui aimeraient vivre dans du... Oui, enfin, c'est limite, on ne peut pas louer. Pour moi, quand on veut allouer quelque chose, c'est que c'est insalubre. Il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, aimeraient louer des maisons dites insalubres parce qu'elles sont F, voire G, y compris sur l'île-Dieu, y compris à l'année. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de quoi se loger.
Il n'y a personne qui a envie de ça. Il y a des gens qui n'auraient pas le choix et qui l'accepteraient. Mais il n'y a personne qui a envie de vivre dans une maison non isolée, avec de la condensation et des choses comme ça. Tout le monde a envie d'habiter dans une maison plus que correcte. Ils seraient contents d'y habiter parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc quand on n'a pas le choix, on fait des choses qu'on n'a pas envie. Et on les accepte pas, malgré qu'on n'ait pas envie. Histoire d'ambition quand même. Non, je ne dis pas que ce n'est pas insalubre. Mais je reprends en disant ils aimeraient, ce n'est pas vrai. Personne n'a envie du moins 10 ans. On y est, on l'accepte parce qu'on n'a pas le choix. C'est pas la même chose.
Attends.
Il y a beaucoup de gens qui achètent des maisons F qui y vivent. J'en fais partie. Je n'ai pas l'impression de vivre dans un truc.
Oui, mais après, si au même prix vous aviez eu une maison passive, au même prix vous auriez pris une maison passive. Non, mais la même nickel chrome au même prix, vous auriez pris la même nickel chrome.
Moi, je te parle de location saisonnière.
Non, mais j'entends. Je sais bien.
J'ai le coche. Je pourrais te montrer. Hein,
ça, moi, j'ai...
C'est ce qui se passe depuis des années pour ma mère. Justement, ça lui paye une partie de son EHPAD. Mais c'est loué que l'été. Elle n'est vraiment pas insoluble. Elle est très propre, très nette. Mais néanmoins, ce n'est pas isolé. Il n'y a pas de double vitrage. Dans ces cas-là, on n'aura plus qu'à vendre. Et puis malheureusement, tu sais ce qui va se passer.
Mais... Que les agriculteurs... Non, mais c'est pas le sujet. On en parle tout à l'heure les deux, mais c'est pas le sujet. Non, mais on a 1h30. On parle pas des agriculteurs, là. Non. On en reparle tout à l'heure, mais là, on va rester sur le logement. Oh, c'est pas une tribune politique. On parle du logement. S'il te plaît, on finit sur le logement. On parle des agriculteurs, si tu veux, à la pause. Pas de souci.
Pour l'instant, on va parler des visal.
Juste pour finir sur ça, le truc, c'est que là-dessus, on n'aura pas la main. de toute façon. C'est l'État qui va décider, un calendrier, des choses comme ça.
Moi, j'ai deux observations.
Mais je comprends.
J'entends parfaitement la problématique en tant que bailleur, mais sachez que un propriétaire occupant a aussi beaucoup d'aide. Je sais, il faut qu'il accède à la propriété à l'île-Dieu, mais peut-être que en réseau, familialement. Parce qu'il y a aussi cette notion de transmission du patrimoine que vous avez évoquée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, investir dans de la rénovation énergétique, c'est aussi conserver le patrimoine. C'est, voilà. J'entends. Pour finir, par rapport à la garantie visale, donc automatique pour les moins de 30 ans. Donc, par exemple, si vous vouliez louer à des étudiants de l'école de pêche ou à des saisonniers, en étant sûr de pouvoir récupérer votre bien à la fin du bail. Donc, il y a le bail mobilité et cette garantie visale automatique, gratuite, délivrée par l'État. Vous allez sur le site, vous ouvrez un compte. Excusez-moi, vous êtes bailleur. Vous demandez au locataire de faire la même chose et ça y est, vous êtes garanti contre les impayés, contre les dégradations locatives, voilà, sans payer une assurance garantie, voilà. Madame.
Je vais venir avec le micro parce que.
Oui.
J'ai eu affaire à Visal, j'ai eu des dégâts. Et le remboursement n'avait rien à voir avec les travaux qu'on pouvait envisager, quoi, en fait. Hein. Donc, comme un peu toutes les assurances, sur le papier, c'est super. Hein. Effectivement, c'est gratuit, etc. Mais si vraiment vous avez un problème, bah, ça ne va pas couvrir grand-chose, en fait. Hein.
Alors, c'est curieux parce que j'entends votre retour et c'est intéressant parce que vous êtes le premier retour négatif que j'ai eu, parce que moi, justement, j'ai eu des propriétaires victimes d'impayés et qui disaient que Visal avait tout pris en charge. Là, c'est les dégradations locatives.
Là, il s'agissait de dégradations locatives. Là, on est sur une table ronde à l'Île-Dieu. Donc déjà, il va falloir trouver immédiatement l'artisan qui va venir réparer, ce qui ne va pas être évident du tout. Donc, vous allez avoir un délai, en fait, pour remettre à la location. Et puis, les prix des artisans ici. Donc, c'est mort, hein, en fait. Hein. Donc, dans l'absolu, sur le papier, très bien. Mais dans la réalité, concrètement, ça ne marche pas. Alors, nous, on a fait les travaux nous-mêmes. Hein, et puis, c'est bon, c'est passé. Mais j'avais beaucoup d'espoir dans la garantie visale.
Mais finalement, si ça avait été une garantie privée, ça aurait été la même chose, puisque c'est un problème d'artisan.
Oui, non, mais en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en tant que propriétaire, bailleur, à l'année, il y a des risques. Et ce n'est pas les assurances... C'est quelque part, c'est un petit peu un leurre. On peut les assurer, on peut les assumer, ces risques. Ça fait partie de la location, en fait. C'est-à-dire que quand on loue un bien, qu'il soit en saisonnier ou à l'année, il y a un risque. Et la garantie visale, elle ne le couvrira pas. Je veux dire, c'est pas, faut pas rêver, quoi, en fait, un peu. Hein. Mais on peut l'accepter. Il faut au contraire le mettre. Si on fait une colonne avantage-inconvénient, et ben dans les avantages, ben il va y avoir le loyer qui va tomber régulièrement, ou pas d'ailleurs. Et dans la case inconvénient, il y a effectivement ce type de risque. Il ne faut pas penser, et surtout à l'île-Dieu, que la garantie visale va couvrir les dégradations éventuelles.
Alors on a une autre question.
Oui, dans le même registre que Sylvie, en fait, donc moi je gère une conciergerie sur l'île-Dieu pour des résidences secondaires. Et là, j'ai récupéré deux propriétaires qui louaient à l'année et qui s'en sortent avec des loyers payés, mais avec environ 10 000 à 15 000 euros de travaux suite au départ des clients. Aujourd'hui, la réalité, elle est celle-ci. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des gens, ils ne vont pas payer leur loyer. Et nous, on a des emprunts. Et que la banque ne va pas nous dire en fin d'année, « Ah ben non, mais tu n'as pas payé ton emprunt. » Vous voyez ce que je veux dire? On a aussi ce protège. Pourquoi les gens louent à la saisonnalité? Parce qu'ils gardent une maîtrise de leurs biens. Eux-mêmes, ils rentrent quand ils veulent, il y a des allers-retours. Et aujourd'hui, moi, les gens que je récupère, ils sont franchement dégoûtés d'avoir loué des gens à l'année pour des gens de l'île-Dieu ou pas. Hein. Mais c'est la plupart, c'est quand même des gens de chez nous. Quoi. Donc, au bout d'un moment, de tirer à boulet rouge sur les locations Airbnb, saisonnières, c'est le mal absolu, Je suis pas si sûr, en fait.
On est plus dans l'optique de, d'essayer de vous proposer des boîtes à outils. J'ai entendu que ça ne vous convenait pas dans votre cas. Après, est-ce que c'est une spécificité de Visal ou de, du coût des travaux et des délais de travaux propres à l'île-Dieu? Ça, c'est autre chose.
Non, mais quand vous louez...
Parce que 15 000 euros de remise en état, c'est quand même... Enfin, ça aurait été un, j'aurais bien aimé... On en discute tout à l'heure, d'accord?
Bah, c'est deux chambres et deux chambres à refaire.
Alors, bon, on en discute tout à l'heure.
Mais on sait que le coût, de toute façon, à l'île-Dieu, même pour les assureurs dans le privé, commence à avoir des soucis avec les... Même quand c'est avec assurance expertise, commence à avoir des soucis avec les devis qui vont arriver des artisans l'île-Dieu. Parce qu'ils ont une certaine norme avec des tableaux par rapport à Île-de-France, des choses comme ça. Et on est en train de dépasser ce que les experts reçoivent sur Paris, quoi. Donc les assureurs commencent aussi à tiquer là-dessus. Il va y avoir un peu le même souci que ce que tu amenais, quoi. Et c'est vrai que c'est un souci, hein, un vrai. C'est un vrai frein, un vrai frein.
Alors pour la garantie Visal.
On a fini avec Visal.
Ouais, on va passer à la fiscalité maintenant. Alors on va passer à l'aide communale. Donc si vous voulez, si vous louez votre donc une location à la saison et que vous voulez passer à la location à l'année, la mairie vous propose une aide financière.
En fait, on est parti. C'est pas une histoire que la location saisonnière s'est attirée à Boulet Rouge, c'est de la réguler. Ce que veulent faire tous les territoires touristiques, en fait, hein. C'est de rééquilibrer les usages en termes de logement sur les territoires, que ça soit dans en montagne, dans le sud-ouest, en Bretagne, en Corse, etc. C'est arriver à rééquilibrer les différents usages entre un usage de résidence permanente, un usage de villégiature, la résidence secondaire, un usage touristique, donc que ça soit de l'hôtellerie et de la location touristique, un usage pour des saisonniers, un usage pour des travailleurs, parce qu'on a besoin, et on a aussi à l'île-Dieu, comme sur toutes les îles, on a besoin d'avoir des logements pour recevoir des spécialistes, des médecins, etc. Donc en fait, il faut arriver à retrouver un équilibre de tous ces usages. Donc partant de là, en fait, avec cette difficulté du coût du bâti, du coût de la construction, et donc de la difficulté de pouvoir passer d'un usage du Airbnb, on va dire, enfin de la location touristique qui est rentable et qui, comme tu l'as dit, qui a plein de facilités, et en plus fiscalement, qui était carrément aidé par rapport à la location à l'année, c'était de voir comment on peut aider à faire le passage de l'un à l'autre. Donc on est en train de travailler dessus, c'est-à-dire qu'on cherche, alors il y avait les garanties, on cherche ce qu'on pourrait faire, aider les gens à rédiger un bail, peut-être aider les gens, les accompagner sur tout ce processus, etc. On n'est pas encore arrivé à pouvoir offrir un vrai dispositif d'aide et d'accompagnement. On n'est pas encore mûr là-dessus. Par contre, on avait réussi, donc on a fait cette aide financière, qui est une aide financière qui va de 5 000, c'est une part fixe, jusqu'à 8 000 en part variable, suivant la surface du logement. Donc toute personne qui veut mettre un logement à l'année actuellement, soit on passe de saisonnier en location à l'année, soit on a un projet, on fait une construction d'un studio, d'un appartement aussi, qu'on veut mettre à l'année, nous, on va faire on va donner 5 000, de 5 000 à 8 000 euros, si en échange, il y a on s'engage à louer le bien pendant 3 ans à une personne, donc un résident principal. Donc ça, on a commencé à le faire à l'automne. On a fait un peu de publicité. On a eu 2 dossiers acceptés. On en a 3 en cours d'études et on a pas mal. On a quelques dizaines de gens qui sont venus se renseigner là-dessus et qui sont des gens qui sont en train d'étudier. Donc, soit ça leur permet de finir leurs travaux, soit ça leur permet de boucler un financement d'équilibrer leur truc. Et ils ont envie de passer à la location à l'année pour ça. Donc, voilà. Oui.
Oui. On a 2 logements, en fait, un logement qu'on loue à l'année et un logement qu'on loue en saisonnier.
Oui.
Et actuellement, on se pose des questions, effectivement, pour celui qu'on a en saisonnier, éventuellement le passer. Est-ce que la commune fera comme l'État? Est-ce qu'il faudra des artisans DPE, des machins, des trucs?
Non.
Ou est-ce que tu, est-ce que vous accepterez des travaux faits par les...
Oui.
D'accord, c'était ma question.
Oui. Et l'aide, elle est donnée sur les 3 ans. J'ai oublié, on ne donne pas les 5 000 directs ou les 5 ou 8 000, on les donne, on en donne une partie, puis après on redonne au fur et à mesure. Non, exactement. Oui. C'est-à-dire qu'au début, c'était une aide qui existait avec le guichet unique, qui était par rapport à la transition énergétique et l'amélioration. Et en fait, elle nous bloquait pour plein de choses où des gens, les projets qu'on voyait, en fait, on était trop contraints en respectant. Donc, on l'a sorti des histoires du guichet unique et d'un dossier RGE, etc., en disant on fait ça et toute personne qui vient mettre quelque chose à l'année, on l'aide. Oui. Non.
Non. On peut être en G?
Non. Si on peut pour l'instant.
Et quelle est la fiscalité sur que le bailleur aura à payer sur cette aide?
Non. Faut pas être en G. Non. En G. Non. Pardon?
Quelle fiscalité pour cette aide?
Ah, j'en sais rien.
Ça rentre dans vos revenus.
Oui, c'est vrai.
Ça rentre dans les revenus.
Mais dans quelle catégorie? Normalement, les subventions, c'est toujours net d'impôt, mais est-ce que c'est considéré comme une subvention?
Oui, c'est une subvention.
C'est une subvention, donc c'est comme l'aide
COVID, c'est fiscalisé. Un spécialiste, là.
Donc, catégorie revenu foncier ou subvention, je n'ai pas suivi. Ouais. Oui, donc ça sera fiscalisé comme les revenus fonciers. Donc à 50%.
On a une autre question?
Oui, bonjour. Moi, c'est pour du neuf. J'ai pas. Quand t'as un projet neuf, tu peux pas avoir cette aide-là.
Si, aussi,
tu peux.
Oui.
Ok.
Bon. Ça, au début, on n'y avait pas pensé clairement parce qu'on était parti sur l'idée d'aider le passage de l'un à l'autre. Et en fait, comme on a vu arriver des projets de gens qui se disaient, tiens, j'investis pour construire quelque chose et je vais le mettre à j'ai envie de le mettre en location à l'année. Et là, on a bien conscience que quand tu investis au taux qu'il y a actuellement, au coût de la construction, etc., bah, de toute façon, ça colle pas bien pour faire de la location à l'année. Donc là, on s'est dit, non, faut l'ouvrir aussi à ceux qui veulent faire l'effort. Parce qu'il y a... si on prend... il faut être clair. Si on prend les conditions de coût, de rentabilité, de fiscalité, alors même si ça va s'équilibrer, de facilité, etc., il y a un côté militant actuellement à vouloir mettre un bien en location à l'année, quoi. Donc voilà, on n'est pas fou. Hein. Et donc cette aide, même si quelqu'un construit quelque chose de neuf, ça aurait été dommage de ne pas la donner, quoi. Enfin, voilà, clairement. Quoi.
Moi j'ai Scala, je vais avoir la chance d'avoir une maison neuve qui devrait profiter de cette aide, mais ce sera meublé. Donc comment ça se passe? Parce qu'il y a l'engagement des 3 ans.
Tout pareil, ça. Ouais.
Mais on a une sécurité pour 3 ans, on va pouvoir le contracter.
Ouais. Si. Après, il y a 2-3. C'est-à-dire que ça ne marche pas quand la location est pour un enfant, pas pour votre fils ou votre fille, par exemple, ça marche pas. Alors on se dit c'est un peu couillon parce que on pourrait avoir un jeune qui paye son loyer, donc ça il faudrait réfléchir. Mais si on mettait ça, ça veut dire que toute personne qui loge son enfant pourrait venir demander 5 000 euros, quoi, en gros. Donc bon, là, voilà, là il y a des moments où on a enlevé des choses parce qu'on ne sait pas les sécuriser en fait ces règles-là pour l'instant. Donc il y a cette règle-là qui a été enlevée. Et il y a une autre règle, c'est pour les sociétés qui payent l'impôt sur les sociétés, les CI qui vont payer l'impôt sur les sociétés. Et en gros, c'était de dire, genre un promoteur immobilier ou des vrais investisseurs qui veulent faire 15 apparts ou des choses comme ça, c'est pas notre cible. Notre cible, c'est d'aider les gens de l'île-dieu qui sont en train d'essayer de faire des efforts, etc. Et alors, le truc, c'est qu'on a, on a 2 dossiers de famille qui sont montés, ils sont des frères et sœurs, des choses comme ça, ils se sont montés ici avec l'impôt sur les sociétés pour faire un dossier avec 2-3 studios et tout. Donc,
Là aussi, il y a des trucs où il faut qu'on améliore. C'est-à-dire que dès qu'on trouvera à pouvoir augmenter les règles, mais en gardant l'esprit de ce qu'on veut faire, on essaiera de les ouvrir. Quoi. Mais bon, voilà. Là, après, c'est des histoires de légalité, de ne pas se faire attaquer. On se retrouve, c'est complexe, en fait. Merci,
Philippe. De donner le 2000 euros de la signature, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'abus? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre la fin de soit du bail, soit du départ du locataire, s'il part au bout de 2 ans, par exemple?
Je ne sais pas quoi te dire, là, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en l'humanité. Non, mais il y a des moments où il faut avoir confiance, c'est tout, aussi.
Alors, on a fini donc sur cette aide communale, s'il n'y a pas d'autres questions. On va passer donc, après cette aide communale, aux obligations et aux avantages fiscaux donc, concernant la location.
Alors, cette slide concerne ce qu'on appelle les micro-régimes. Donc, en location meublée, c'est pour des recettes inférieures à 23 000 euros et 15 000 euros en vide. Est-ce que vous souhaitez que je développe? Donc, aujourd'hui, la fiscalité en location meublée en micro-régime est plus intéressante car elle permet en fait donc un abattement de 50% sur les recettes. En revanche, il y a plus de contraintes administratives. L'idée, c'est qu'un logement meublé, il y a plus de frais parce qu'il y a un mobilier à entretenir. Tout ce qui est sur l'inventaire est à la charge du propriétaire en cas de casse pour cause de vétusté ou autre. Et à l'origine, c'était pour un bail qui était destiné à être occupé un peu provisoirement. Donc c'était un petit peu en dépannage, la construction d'une maison ou autre. J'entends la réalité est ailleurs. Mais ceci explique que en location meublée, fiscalement, vous devenez un loueur de meublé non professionnel si vos recettes sont inférieures à 23 000 euros. Vos revenus seront catégorisés dans les bénéfices industriels et commerciaux. C'est-à-dire qu'il y aura une annexe à remplir au niveau de l'impôt sur le revenu et vous seriez susceptible de la contribution foncière des entreprises. À la conclusion du contrat, il faut obtenir un numéro SIRET. Que vous pouvez obtenir sur le site INPI Formalité, déclarer cette activité de loueur de meublé non professionnel qui s'active en fait au jour de la prise d'effet du bail. Tout le monde était au courant. En location vide, eh bien, il y a moins de formalités car c'est la déclaration commune. Il faut juste rajouter dans une case 4BE en fait l'intégralité de vos recettes et automatiquement l'administration fiscale fait un abattement de 30% pour vous imposer sur votre revenu global. Et l'administration fiscale aussi se base sur la base de vos déclarations de vous demander et le